Il est midi. C'est l'heure de connecter votre cerveau à l'Hippocampe, présenté par Fabien Olicard.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Olicard, bienvenue sur l'Hippocampe, le podcast où votre cerveau trempe. Un nouvel épisode tous les mardis, vendredis à midi pile, mais en vrai c'est pas vrai, c'est quand il y a un nouvel épisode, c'est le mardi, le vendredi à midi pile, mais je suis pas très rigoureux sur les sorties. Sur toutes les plateformes de podcast, je vous invite à vous abonner, à laisser votre plus belle note, c'est ce qui fait vivre le podcast. Et au sommaire aujourd'hui, un sommaire très rapide parce qu'en fait on fait le troisième interview libre antenne où nous recevons Adrien. Salut Adrien.
Salut Fabien.
Tu vas bien?
Bonjour à tous. Ouais, et toi?
Ben oui, ça va très bien. Tu as été un des premiers à t'inscrire, tu sais, en fait, pour celles et ceux qui savent pas, pour s'inscrire et pour que je vous appelle, il y a un Google Form dans le Linktree qui est dans la description. C'est un lien qui est dans la description de tous les podcasts. Donc là, vous pouvez le trouver actuellement. Et puis, vous pouvez rentrer un peu toutes vos informations et tout. Et après, moi, je vous envoie un mail pour vous appeler. Et Adrien, tu as été un des premiers à t'inscrire. Voilà. Sache-le.
Ah bah oui, bah je voulais pas rater ça, hein. J'avoue que l'Hippocampe, j'ai essayé de suivre au maximum et depuis que j'ai découvert, j'ai raté presque aucun épisode. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit on va remplir, on verra bien. Et là, je suis aujourd'hui, donc merci.
Et en vrai, tu devais même être le premier, je crois, à passer. Et j'ai eu un petit décalage parce que la sortie de mon prochain livre s'est accélérée, il a fallu que je rende le livre. Je crois que c'était ça qui a fait que je t'avais reporté. Donc excuse-moi publiquement. Veuillez recevoir mes excuses publiques.
Il n'y a pas de souci, l'important c'est que tu aies réussi à t'en sortir.
Oui, c'est bon. Alors, je fais un petit brief sur toi. Tu as donc 22 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
21, oui, bientôt 22.
Ah oui, 22 au mois de juillet. Et donc, tu es étudiant en école d'ingénieur et la nuit, sur ton temps libre, en gros, tu lances des projets. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, donc comme tu dis, voilà, de jour je suis un simple étudiant, enfin je suis monsieur tout le monde, tout ce qui est normal.
On dirait Superman et Clark Kent.
Voilà, c'est un peu ça, c'est la double vie. Et j'aime bien, ça fait depuis toujours, j'aime bien lancer différents projets. Et là, le dernier en date, c'était de lancer un podcast depuis quelques mois. Et ce podcast, j'ai lancé en partie grâce à toi, parce que c'est en partie grâce à l'Hippocampe que je me suis lancé.
Trop cool.
Et parce que tu avais dit une phrase qui était tous les sujets existent déjà sur Internet, oui. Mais ce sujet exprimé à ta façon, à ta manière, ça n'existe pas.
Exact.
Et je me suis dit, c'est parti, go for it, on verra bien ce qui se passe, quoi.
Et oui, et
on lance.
Et puis en plus, quoi qu'il arrive, tu vas prendre de l'expérience et toi-même, en explorant le sujet, tu vas... C'est ça qui est intéressant, en plus, quand on crée du contenu sur un sujet, c'est qu'en explorant toi-même le sujet, tu vas aboutir à des réflexions que tu n'avais pas encore eues sur ce sujet. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est, ouais, t'apprends plein de choses.
Ouais. Et donc, tu m'avais mis... le problème, c'est, bon, en gros, comment on fait pour se lancer sur Internet quand on a zéro contact, zéro follower, etc. Parce que là, on doit être à 5 mois que tu as lancé ton podcast, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, l'idée, c'était ça de départ, mais j'aurais peut-être une question plus précise parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont énormément changé entre-temps.
Okay.
Ça bouge très vite, en fait, mais tant mieux. Mais ouais, c'est l'idée de base, c'est comment faire lorsque on connaît personne sur Internet, on n'a que ses amis et sa famille, et se dire, qui va m'écouter, en fait? qui va écouter ce que j'ai raconté alors que je suis en privé, personne, voilà, je suis monsieur tout le monde, donc qui va écouter ce que j'ai raconté? Et c'est pas facile de s'en faire.
Oui. Alors en fait, oui, c'est le distinguo entre créer le contenu et après partir en quête d'une audience qui écoute ce contenu. C'est vrai que si à un moment donné, quelqu'un qui peindrait des tableaux qui serait le seul à voir, un petit côté quand même, il y a un petit côté déceptif. Donc c'est intéressant. Et avant d'y répondre, du coup, je veux bien ta deuxième question plus précise parce que ça me permettra d'avoir le global.
Ma deuxième question plus précise, c'est comment faire pour faire interagir des gens, pour faire interagir les personnes qui m'écoutent à travers l'émission. Parce que tu sais, je parle souvent des projets locomotives. Alors la locomotive, je l'ai, j'ai même les wagons derrière, il y a des gens qui regardent le train passer, mais si tu veux, j'ai pas de gare.
D'accord.
Donc, comment on construit une gare?
D'accord, ok. Donc l'interaction, c'est plus leur implication vis-à-vis de ton podcast, par exemple.
Oui, par exemple, avoir, j'essaie d'avoir des formats interactifs, donc ouais. Comment faire pour avoir des retours, pour ce genre de choses.
Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton podcast ? Alors là, on est dans la première phase. Hein. Je collecte beaucoup de données pour avant de te donner mes idées, essayer d'avoir la meilleure vision possible.
Ça marche. Bah, mon podcast, faut savoir qu'au début, c'était un projet étudiant parce que j'ai eu la chance d'avoir un projet où on nous dit bah tu parles d'un sujet qui te plaît, enfin qui te tient à cœur, sous le format que tu veux, donc sous-entendu en fait ta carte blanche, mais ça compte dans tes études, donc tu peux vraiment t'impliquer dedans. Enfin moi j'avais tendance à mettre les side projects de côté, et là comme c'est dans mes études, j'avais pas de regret à me dire je passe du temps dessus vu que c'est dans mes études. Donc ça a commencé comme ça, et le principe c'était de dire je vais répondre à mon propre problème qui est je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas prendre de pause, et c'est super important de prendre des pauses et de prendre soin de soi. Et j'ai commencé du coup à réfléchir à ces questions de comment prendre des pauses pour être efficace, pourquoi prendre des vacances, pourquoi la technique du Pomodoro, pourquoi c'est efficace pour certaines personnes, et répondre à ce genre de questions. Et ça s'est transformé petit à petit à venez, on se fait un rendez-vous hebdomadaire, on prend tous une pause, je prends le micro et vous le casque, et on profite un petit peu après cette semaine de malade, quoi. On vient souffler pour repartir du bon pied. Le pitch.
En vrai, c'est hyper intéressant et c'est hyper actuel parce que c'est un triste anniversaire là. Ça fait un an maintenant qu'il y a eu le premier confinement quasiment. Depuis un an, une grande partie de la population s'est mise à faire du télétravail sans y être habituée. Et alors, quand t'es entrepreneur, ta vie est un télétravail permanent, donc tu as des clés là-dedans. Par contre, quand tu n'es pas habitué à ça, tu n'es pas habitué à prendre une pause. Et en fait, il y a une étude qui a été publiée, qui est une étude pas forcément très rigoureuse, mais plus statistique, sur le fait que les gens qui font du télétravail depuis un an ont tendance à prendre une pause durant laquelle ils travaillent. donc ça ne marche pas. Donc l'idée de se dire, la pause s'impose, venez, on fait une vraie pause ensemble, on prend un café, on discute un peu. Déjà, rien que ça, c'est une bonne idée, tu vois, de réintroduire la noblesse de la pause.
Merci.
Tu vois. Non, mais c'est...
Mais c'était un double problème que j'avais parce que, comme je ne sais pas m'arrêter, il fallait que ce moment de pause que je crée, il fallait aussi que ce soit un moment de pause pour moi.
Oui.
Donc, le problème, c'est que quand tu crées quelque chose, quand tu t'y tiens beaucoup, c'est difficile de s'arrêter. Et du coup, je suis tombé l'autre travers, et puis c'est petit à petit, on se dit, mais non, c'est une pause pour tout le monde. Donc, même moi, il faut que je sois avec le petit café, comme tu dis, on souffle et apprendre à décrocher. Donc,
oui, c'est ça.
Et puis, d'où l'enjeu.
Et puis le truc qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, pour l'instant, tu es au stade des petits paris, ce qui est également le stade de mon podcast, même si j'ai un volume d'écoute qui me fait plaisir, mais il y a quoi ? Il y a 20 000, 25 000 écoutes mensuelles, donc on ne touche pas non plus la population française. Donc on se dit, on est encore à l'époque des petits paris où tu peux te permettre de, à chaque fois, essayer quelque chose. Il n'y aura pas un gros impact négatif conséquent, parce que les personnes même qui te suivent dès le début sont tout à fait à même de t'excuser s'il y a un truc qui leur plaît pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas de problème, ils ont conscience en fait de ce côté début, donc ça c'est cool. Donc en gros, il y a deux questions, c'est comment on se lance sur les réseaux pour un podcast comme ça, et comment on fait interagir un peu plus sa communauté techniquement, dans le fond et dans la forme, entre guillemets.
Et ouais, c'est le gros problème que j'ai aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui m'écoutent, et j'en suis beaucoup trop content, il y a des personnes qui m'écoutent, mais j'essaye d'avoir de l'interaction, et c'est pas, je pensais que c'était plus simple que ça, tu vois. C'est un autre petite chose à rajouter à la liste, des choses inattendues lorsqu'on se lance, de dire « Ah, je m'y attendais pas ».
Oui, parce que en plus, l'interaction podcast, elle a de ça de compliqué que le podcast, il se consomme par rapport aux autres médiums, aux autres médias sociaux, il se consomme en faisant autre chose, bien souvent. Donc, oui. T'es en train de marcher dans la rue, t'es dans le métro, t'es en train de faire la cuisine chez toi, t'as ça dans les oreilles, mais t'as pas forcément les mains libres et t'es pas tout de suite en interaction. Moi, je l'ai découvert ça vraiment en lançant l'Hippocampe, où je me suis dit, tiens, c'est marrant, le nombre de commentaires est pas si fréquent que ça. Et j'ai récupéré cette interaction déjà en créant mon petit truc de, tu sais, les questions ne sont pas sans réponse.
Ouais.
À force de le faire, au début j'avais qu'une ou deux questions max. À force de le faire, les personnes qui écoutent ont, bah toi d'ailleurs aussi, tu en laissais, il me semble, les personnes comprenaient que vraiment, si tu mets ta question dans la semaine ou 10 jours après, il y a quand même de grandes chances que je la vois passer et que j'y réponds dans le prochain podcast. Donc ce n'est pas vain. Donc la première chose quand on cherche de l'interaction, c'est que le public en face, on va dire, ou là tes auditeurs, comprennent que cette interaction n'est pas que de l'ordre de « c'est bon pour mon référencement ou mon ego », mais que vraiment ce retour compte pour moi et que je m'en servirai. Tu vois, qu'on comprenne que c'est pas vain. Ce qui explique que les questions thé ou café sur Instagram, alors ça marche toujours, hein, de mettre ça sous team chocolatine ou croissant, ça marche toujours sous une photo, mais on sait très bien que le créateur n'a rien à foutre de lire ça. Enfin, on va parler en toute transparence. Ça m'atterre toujours aussi bien de voir les questions que de voir les réponses. Je vous invite à regarder mon feed Instagram, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas souvent une question pour chasser l'interaction. Parce que l'interaction, elle doit quand même garder un N majuscule un peu noble de « c'est fait pour échanger entre nous et pour avoir un retour » ou alors, dans ces cas-là, le faire en toute transparence et de dire « pour l'algorithme, mets cacahuètes dans les commentaires ». Mais sinon...
Oui, il faut qu'il y ait un côté authentique, en fait.
Oui, c'est ça, parce qu'on n'est pas dupe. Alors, ça marche sur des adolescents parce que ça va les faire marrer. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Hein. Ils ont bien conscience que c'est pour générer de l'interaction. Ils en ont tout à fait conscience, mais ça peut les faire marrer de le faire et de jouer le jeu. Mais bon, sur des personnes un peu plus adultes, ce qui est... on va dire, plus majoritaire sur les podcasts qu'ailleurs, même s'il y a des ados qui sont très pertinents sur les podcasts aussi, on va chasser un contenu un petit peu plus qualitatif. Donc, c'est de se dire comment peut-être créer à l'intérieur de ton format de pause quelque chose où tu vas récupérer des messages qu'on te laisse. Ou... Tu sais, moi, ce qui me ferait rire, dans une pause s'impose, en vrai. Je donne des pistes d'idées comme ça, hein, mais t'en fais ce que tu veux, c'est pas forcément le bon.
De toute façon, c'est en expérimentation jusqu'à l'épisode 52, donc j'ai de la marge.
Ok, ça marche. Écoute, moi, ça me ferait marrer de me dire, alors peut-être en utilisant un téléphone portable prépayé, il y en a qui coûtent dans les 50 euros ou quoi, mais que les gens puissent te laisser un message répondeur ou un message audio quelque part sur un téléphone, sur une plateforme en ligne, peu importe, et que toi, à chaque épisode, tu écoutes un peu ta messagerie, tu vois. Et à chaque fois, tu demanderais, par exemple, dans l'épisode suivant, je vous laisse me laisser un petit message audio où vous me dites quel est votre environnement idéal pour faire une pause ou comment vous changez les idées quand vous avez que 5 minutes devant vous. Tu vois qu'à chaque fois, tu donnes un petit truc thématique qui est peut-être d'ailleurs ton sujet du jour. Et puis bah, t'écoutes ces 3, 4, 5 messages qu'il y a en début de podcast. Et en vrai, c'est assez sympa parce que là, nous-mêmes, en tant qu'auditeurs, on serait un peu plus connectés aux autres auditeurs. On se sentirait moins seul avec toi, mais on se sentirait plus ensemble, tu vois. Après, il y a la petite question de l'ego de « Hey, je suis passé dans le podcast, on m'a entendu, c'est cool. » Parce que ça aussi, c'est toujours marrant. Et puis, d'ailleurs... Je réfléchis en temps réel, mais je pense que quand notre message passe dans un podcast, on a plus tendance à le partager aussi, hein, parce qu'on a fait partie du podcast.
C'est possible, oui.
Tu vois ? Donc ça pourrait être une forme d'interaction sympa que je pique complètement à ce qui existe en radio, hein, évidemment. mais
c'est... Je note l'idée parce qu'en vrai, j'aime bien le principe de pouvoir laisser un petit message. Ouais, je vais réfléchir à ça.
Tu me diras si tu fais, parce que tu vois, ça, même moi, en termes d'engagement, c'est un truc que je ferais facilement, parce que tu ne demandes pas un commentaire, donc je me dirais, ah tiens, c'est marrant, c'est original, c'est pas très engageant, c'est-à-dire que je sais que j'ai pas à avoir rendez-vous avec toi, j'ai pas à réfléchir des heures, je peux laisser un message assez naturel, j'ai pas à faire gaffe à mon orthographe, à tout ça, je pense que moi aussi, si j'avais un truc à dire, je prendrais le téléphone et puis j'irais laisser un message sur la pause s'impose. J'en prends l'engagement, évidemment, d'ailleurs.
Ok. Bah, écoute, je vais te dire, fun fact, j'étais prêt à prendre des notes de ce que tu me disais parce que j'avais totalement oublié que t'as enregistré.
Bon, après...
Je suis en mode, vite, t'as un papier, un stylo. Bah non, il n'y a pas besoin.
Oui, parce qu'après, ça va être diffusé, donc...
Bah oui.
T'auras le retour facilement. Non, mais ça peut être une bonne manière de faire de l'interaction. Parce qu'encore une fois, ouais, le podcast a... à cette double complication hein, d'être consommé en faisant autre chose et puis en plus de ça de pas avoir un espace graphique, comment tu fais réagir ouais. quelqu'un qui écoute, tu vois, c'est il faut quasiment être certain de l'amener un petit peu ailleurs sur une autre plateforme. Après, si tu veux garder le contact, que ce soit en collectant le mail ou en ayant une deuxième plateforme comme ça un petit peu en parallèle, peut-être un mini site internet, et encore je suis pas si sûr que ça fonctionne.
J'ai tenté l'expérience groupe Facebook que j'ai lancé il y a quelques semaines, mais même en invitant les auditeurs à venir dessus, c'est pas en fait c'est difficile, mais même moi en tant qu'auditeur, l'expérience me plairait pas forcément de me dire il faut que je quitte le podcast ouais. que j'ai sur mon téléphone, que j'aille sur le groupe Facebook, ça fait beaucoup d'étapes
ouais.
et comme tu dis, comme on a potentiellement les mains prises, tu penses pas forcément tout de suite, ou et puis après t'as oublié quoi, donc,
ouais et puis la transversalité d'un format sur les plateformes marche assez mal. Tu sais que je vous donne l'info comme ça, mais quand on a 1% de conversion, c'est-à-dire, par exemple, là, tu dis aux gens « abonnez-vous à mon Facebook » et tu as 1% des personnes qui écoutent qui s'abonnent, on se dit que c'est un bon taux, tu vois, pour te dire. La transfusion passe mal comme ça d'un réseau social à l'autre. Non, mais il peut y avoir ça. Bon, il y a toujours aussi hein, le moyen de favoriser quand même les commentaires, mais là, ça t'oblige à faire à peu près le tour de toutes les plateformes où est-ce que tu diffuses. Donc là, c'est encore un petit peu compliqué. Il faudrait que j'en écoute un quand même pour voir comment générer ça. Par contre, sans leur dire d'aller sur une plateforme en particulier pour rejoindre un groupe à toi en particulier, ça peut être sympa que tu essaies de choper un arrobase commun sur toutes les plateformes, on va dire, tu vois,
ouais.
pour qu'on te retrouve facilement, et de dire, par contre, si vous partagez ce podcast, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, etc., n'hésitez pas à me taguer, qu'on puisse échanger, etc., tu vois, de favoriser ça et de dire, attention, si vous partagez, je le vois passer, et moi-même, je repartagerai votre partage, tu vois, pour valider un petit peu le truc, quoi. De faire un truc, en fait, souvent, ce que j'ai pu remarquer, hein, j'en fais une généralité un petit peu à tort, mais ce que j'ai pu remarquer parfois, c'est que les personnes qui recherchent de l'interaction la recherchent à sens unique. Et ça ne s'appelle pas de l'interaction, ça. C'est-à-dire que toi, tu envoies la première pierre, on va dire, c'est-à-dire la diffusion de ton média, ça c'est de l'interaction, sauf qu'on ouais. sait tous que c'est de l'interaction groupée. Ensuite, tu reçois une interaction individuelle et c'est là où il ne faut pas oublier de comment toi, tu peux fermer cette boucle en ayant une interaction individuelle derrière. Alors, ce qui est moins...
Ouais, en recommentant, en repartageant...
C'est ça, ouais, c'est ça.
On est en vrai dialogue. C'est vrai que j'ai cette chance pour l'instant de ne pas être connu du tout. Donc,
ah oui, non mais c'est ça, bien sûr.
C'est facile de répondre, quoi, donc, ouais. pour l'instant. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe après quand t'as beaucoup de personnes qui suivent. Je pense que tu peux pas répondre à tout le monde.
Non.
Ça doit être...
Alors, tu peux pas répondre à tout le monde. Par contre, tu peux encore lire parfois du coin de l'œil, je t'avoue, tout le monde. Moi, c'est le cas. Je vois tous mes messages, par exemple, tous les commentaires YouTube. Il y en a pas un qui passe pas sous mes yeux. Ça me permet. Alors, c'est pas que pour faire plaisir. C'est que ça me permet aussi d'avoir une vraie température de comment marche une vidéo, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, quels sont les sujets un petit peu qu'on me donne. Comme piste d'idées, etc. Par contre, répondre à tout le monde, c'est pas possible, mais le fait que je dise que je les lis et que je suis capable toujours aussi de suivre un peu la tendance globale de ce que disent mes commentaires, ça le prouve aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je crois qu'on a.
Tu es proche de ta communauté, quoi, aussi. Enfin, tu.
Ouais, je pense.
T'es pas dans un idéal où tu te fais des films, tu es quand même dans le concret.
Ouais, ouais. Oui, et puis moi, je sais qu'on peut se bananer du jour au lendemain. Tu vois, j'ai bien conscience ouais. que ce qu'on construit, c'est un pont, et que sous le pont, il y a deux, trois piliers, et puis il y a toi en dessous aussi qui tient le pont au cas où, quoi, tu vois. Et que après, évidemment, il y a toujours les exceptions, tu vois, si je prends sur YouTube, on peut dire Pierre Cross, Amixem, etc. Je pense qu'ils sont pas à fond dans la lecture de leurs commentaires. Je pense que ils ont créé une communauté de fans d'eux-mêmes encore plus que de leur contenu. Donc, ils ont moins cette obligation-là. En tout cas, ils peuvent s'en passer. Et puis, comme ils créent du contenu de pur divertissement, je veux bien le croire aussi que tu n'as pas envie de lire tous les commentaires issus de ce contenu-là, qui vont être juste des vannes ou des trucs ou des machins. Moi, j'ai la chance d'avoir des commentaires qui m'intéressent aussi, tu vois. Donc forcément, c'est plus facile. Quand tu as des commentaires qui sont constructifs ou qui complètent parfois aussi ce que j'ai dit, ça c'est intéressant. Tu sais, les personnes, ça va peut-être te servir, les personnes écrivent des commentaires pour, on va dire, trois grandes raisons majeures. Soit pour poser une question, soit pour te compléter, ou te compléter, alors ça peut être en positif ou en négatif évidemment, soit pour raconter leur propre expérience, et après il y a le quatrième point, c'est pour te féliciter ou pour te dire que c'est nul. Mais si tu gardes bien ces trois trucs en tête, tu vas voir aussi que dans l'écriture de ton podcast et dans ce que tu dis, tu peux inciter à la réaction en fait. Et qu'est-ce qui fait réagir? C'est est-ce que moi j'ai envie de te poser une question parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris ou j'aimerais que tu fasses quelque chose? Est-ce que quand tu as parlé toi de quelque chose d'un peu large qui te concernait, tu m'as appelé à raconter moi aussi ma propre expérience et du coup j'en ai une qui me vient en tête et j'ai envie de te la raconter? Ou est-ce que tu as dit quelque chose que je maîtrise moi aussi et du coup j'ai envie de te compléter? Ça c'est de l'interaction naturelle en général. Si tu entends quelqu'un dire quelque chose et que tu en sais plus, tu as envie de compléter, donc il n'y a pas besoin de faire d'appel à action, entre guillemets. Mais
du coup, tu es en train de dire de peut-être d'essayer de choisir le type d'interaction que tu demandes à tes auditeurs. Okay.
Ouais, complètement. Alors, tu peux faire de la demande directe ou de la demande indirecte. C'est-à-dire qu'une demande directe, ça pourrait être n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires si vous êtes déjà passé à la radio ou sur un podcast vous aussi et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ou ça peut être une demande indirecte. Imaginons que je fais un sujet... sur les entretiens d'embauche, je vais pouvoir dire je suis sûr que vous aussi ça vous est arrivé d'avoir un entretien d'embauche où il s'est passé un truc qui n'était pas du tout prévu et que vous y repensez aujourd'hui. C'est une demande indirecte. En disant ça, c'est sûr que si quelqu'un a une anecdote quand même très sympa ou très drôle à nous raconter, il va avoir tendance à venir la raconter plus facilement parce qu'en fait j'ai juste
envie,
et puis j'ai montré que j'avais conscience qu'ils étaient de l'autre côté de l'enceinte, tu vois. Parce que l'envie d'interaction, c'est ça aussi, c'est il faut qu'on se rappelle qu'on sait que la personne qui parle, elle sait qu'on est là. Putain, cette phrase est très complexe, Adrien, mais tu as compris ce que je voulais dire, quoi.
Toujours se rappeler que même si on a l'impression d'être tout seul derrière le micro, que y a potentiellement plein de monde qui nous écoute derrière et qu'on est là pour eux d'ailleurs. Coucou à ceux qui nous écoutent.
Exactement. Bonjour à vous. Merci d'être là. Et d'un point de vue global, en plus, toi, quand tu crées ton podcast, tu le penses en temps réel, mais en fait, il est en temps universel, hein, c'est-à-dire qu'il va rester dans le temps. Moi, j'ai un podcast là, qui a remonté, c'était un podcast d'il y a 2 ans, tu vois. Il y a 2 ans, il a fait 100 écoutes, et puis là, il doit être à 5000.
C'est le côté bien et pas bien du fait d'avoir ces trucs qui sont qui reste sur Internet, parce que du coup, lorsque je dis aux personnes d'écouter le podcast, ils me disent « Ah j'ai écouté le premier épisode !» Je dis « Ouais, mais le premier épisode, il a 5 mois, donc il était peut-être bien, mais il y a mieux depuis. »
Ah, tu sais, moi j'ai ça plus sur YouTube, je me prends quotidiennement des commentaires sous des vidéos d'il y a 4 à 5 ans, où on m'explique que tu devrais changer ta lumière, tu devrais parler moins vite. Et je dis, mais merci, je vais prendre une DeLorean, je reviens 5 ans en arrière, je me donne le conseil et je reviens. Et pareil, comme toi, je me dis, mais alors moi je suis d'accord avec ce que vous dites sur la vidéo en question, mais vous ne voulez pas regarder juste une vidéo récente pour comparer avant de me le dire? Donc ça, oui
c'est
alors après, il y a aussi des personnes qui font ça. C'est un truc qu'on fait dans le domaine du spectacle d'ailleurs, c'est de faire un reset. C'est-à-dire de dire, écoutez, ce premier podcast, la pause s'impose, va reseter dans quelques jours. Ça veut dire que je vais supprimer les anciens épisodes, je vais changer un peu la charte graphique, peut-être je change le nom un petit peu ou pas.
Carrément suppression.
Et ouais, on fait un reset. D'accord. Alors, tu supprimes pas le compte, mais tu supprimes l'ancien contenu et tu prends un nouveau départ, entre guillemets. Nous, on fait ça dans le spectacle vivant beaucoup, c'est-à-dire que tu crées ton premier spectacle, alors tu le tiens pendant 2-3 ans, et puis il y a des gens qui viennent le voir, il y a un peu de presse qui vient le voir, etc. Mais toi, c'est le premier spectacle de ta vie, donc à chaque représentation, il change, il évolue, parce que tu évolues également, parce que tu prends de la compétence et tu prends de l'expérience. Et puis au bout de 3 ans, là je te raconte une anecdote qui m'est vraiment arrivée, au bout de 3 ans de ce spectacle, tu vois la dame du Figaro qui sort de Théâtre des Mathurins, et puis tu lui dis bah, faudra venir voir mon spectacle, et puis elle dit ah non mais ça je l'ai déjà vu il y a 3 ans. Et un peu comme toi avec le podcast, tu dis ah non mais attends, mais il y a 3 ans je commençais juste. Et du coup, pour contrecarrer ça, ce qu'on fait en général, on change d'affiche. Parfois même on change le titre du spectacle parce que c'est quasiment un nouveau spectacle tellement tout a évolué en 3 ans, tu vois. Et du coup, les spectateurs reviennent en salle, la presse revient en salle avec un regard un peu plus neuf. Ça s'est fait aussi sur YouTube, des gens qui ont fait des resets de chaîne, ça se fait un peu sur tous les réseaux sociaux. C'est pas mal aussi quand on se dit bah, « là, j'ai fini ma phase d'exploration, on va dire, j'archive, voilà, j'archive ces épisodes, je garde cette communauté-là, et puis je repars de zéro à partir de maintenant. Je vais peut-être même retraiter de sujets que j'ai déjà traités, mais c'est pas grave, on n'était pas nombreux à l'époque, et puis j'avais moins d'aisance pour en parler, donc je vais en reparler de nouveau. C'est tout à fait possible de faire ça, et je trouve pas ça inintéressant aussi, tu vois.
Ok, ben je note, j'écoute. J'écoute attentivement ce conseil-là. C'est vrai qu'en plus... ça, comme c'est très expérimental, c'est très accrémental la façon dont on fonctionne, c'est une petite modification par petite modification. C'est vrai que ça peut être utile.
Tu vois, et puis après, la grande question, hein, comment se lancer quand on a zéro contact, zéro follower? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que tu as des contacts dans ta vie, autour de toi, partout. tu connais des gens, mais oui, quand on a zéro contact internet, évidemment. Il y a mille et une manières de faire, évidemment. La plus standard, c'est de laisser faire son travail aux algorithmes, ce qui va prendre énormément de temps, voire ne jamais aboutir. Donc, il y a un petit peu aussi comment booster ça. Donc là, il y a vraiment que le cross-média qui fonctionne, c'est-à-dire on va chercher sur internet des gens qui peuvent écouter ton contenu internet. Là, par exemple, quelque chose dans ton domaine, dans le domaine de la pause qui marcherait bien, je crois, c'est que aujourd'hui les podcasts sont un peu sexy, c'est un peu à la mode de parler des gens qui font des podcasts
c'est la nouvelle mode, complètement.
Ouais, dans les autres médias. Du coup, moi, je serais, si j'étais à ta place à toi, je pense que je prendrais 20% du temps ou 25% du temps que je consacre à mon podcast, je le prendrais à contacter des blogs, tu vois, qui parlent d'univers connexes à ceux dont je parle, que ça pourrait intéresser. Tu vois, tu parlais de la méthode Pomodoro, ben je crois que je contacterais des blogs ou des newsletters étudiantes ou de jeunes entrepreneurs ou de devs perso qui seraient peut-être intéressés pour parler de ça ou pour relayer l'un de mes podcasts, etc. Je pense que ce serait un bon moyen sur un podcast comme ça. En gros, pourquoi je te parle des blogs? Parce que les blogs, ils sont comme toi, mais en pire, c'est-à-dire ils ont toujours besoin de contenu. Ils ont besoin de contenu frais pour leur référencement, etc. Donc quand tu arrives avec quelque chose qui est déjà du contenu à leur offrir, entre guillemets, à dire, ben voilà, moi je fais ça.
Qui est dans le thème en plus, voilà, qui devrait correspondre au public cible.
C'est ça, tu leur prémâches en fait le travail complètement, tu vois. Moi, pourquoi j'ai fait beaucoup de feats à mon début à YouTube? Parce que quand je contactais un YouTuber en lui disant, écoute, j'ai une idée de tour que j'aimerais faire avec toi, etc., si t'es disponible, je disais toujours, et si tu veux faire un truc sur ta chaîne ensemble, c'est pas une obligation, mais voici l'idée que j'ai eue, et je lui faisais tout le déroulé. Et en gros, je disais, c'est lui, dans sa tête, en recevant le mail, il se disait, ok, j'ai une vidéo décrite, j'ai rien foutu, c'est super, on fait ça quand? Tu vois?
Oui, c'est juste la date, et puis c'est parti, on tourne, quoi.
Exactement. Ouais. Et donc là, toi, en contactant des blogs avec ton propre contenu, c'est un contenu existant, donc ça prémâche quelque chose pour eux, c'est quand même assez intéressant. Tu peux aussi avoir une méthode très maligne, c'est glisser le titre du blog qui pour de l'article de blog qu'il pourrait avoir, tu vois. Ça marche très bien. C'est une méthode de Ryan, j'ai mangé son nom de famille, excuse-moi, qui était un peu le publicitaire de Unicolor, qui faisait ça, en fait. Il glissait un peu l'idée de titre clé, donc il leur prémâchait tout, tu vois. Et c'est vrai que ça marche, tu vois.
Oui, parce que du coup, ils ont juste à dire si ça convient. C'est vrai que la seule réponse que tu as envie de donner, c'est oui, quoi, parce que t'as pas de travail à fournir et t'as pas d'effort particulier à faire. Donc c'est vrai que si c'est dans ta ligne éditoriale de blog, enfin oui, en effet c'est royal comme
tu vois. C'est que si tu as envoyé un truc de salut, je m'appelle Adrien, je suis le créateur du podcast La Pause s'impose, je connais votre blog et je crois qu'on a des thématiques connexes, et récemment je me suis dit je pourrais vous contacter pour vous parler de tel podcast, en me disant que ça vous pouvait vous faire un article de blog du type comment une pause de 5 minutes augmente votre productivité de 25%, tu vois. Et là, en fait, eux, ils vont voir ce titre en disant c'est un bon titre, ça fait cliquer, tu vois. Et, tu vois, c'est pré-mâcher ce travail-là. Les blogs, c'est un bon moyen quand même, je trouve, pour les podcasts, parce qu'on a une audience à peu près similaire. Et puis, mine de rien, des blogs, il en existe autant que des podcasts, sauf que ça existe depuis plus longtemps, donc ils ont quand même une audience un peu plus large que nous, la plupart du temps. Et que si tu délires pas à vouloir absolument attaquer tout de suite les gros blogs du style Le Œuf ou les choses comme ça, si tu trouves des blogs intermédiaires ou plus petits, en vrai, ce sont des gens qui lisent leurs mails et qui répondent et qui interagissent. Et si sur chacun de ces blogs, il y a ne serait-ce que 50 personnes qui te découvrent, c'est génial, tu vois.
Et puis, l'avantage, c'est que c'est du... Enfin, pas tous les blogs, mais la plupart sont quand même des blogs de niche. Enfin, moi, l'exemple que je vois sur Internet. Donc, c'est vrai que si tu trouves un blog qui est très ciblé, même pour toi, ça facilite... Enfin, les auditeurs, c'est bon pour tout le monde, quoi. C'est bon pour ceux qui regardent le blog, qui peuvent venir écouter, qui seraient intéressés. C'est du contenu qui va leur apporter quelque chose. Et c'est pas amener du monde pour amener du monde, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Moi, je crois beaucoup au qualifié, tu sais, au plus qualitatif que quantitatif, tu vois, parce que dans le temps, c'est ce qui va marcher. Je vais te donner d'ailleurs un exemple qui va dans ce sens-là. Quand Amixem a voulu faire une vidéo avec moi, j'ai pris 100 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. C'était incroyable en quelques jours. Je pense que ça fait partie de ma communauté morte, tu sais, des personnes abonnées qui regardent pas mes vidéos. Donc en fait, à part me bousiller mes stats, ça me fait pas grand chose, tu vois. Sur les 100 000 qui se sont abonnés, parce que Maxime a dit abonnez-vous en mode on fait un raid, et c'était vraiment très très cool et satisfaisant dans l'instant. Je pense que dans le long terme, j'ai pas gagné tellement d'intérêt, en tout cas moins que sur des beaucoup plus petites chaînes, mais où c'était effectivement la même niche que moi et on parlait déjà des mêmes choses, et donc j'ai récupéré des personnes qui étaient intéressées par la même chose que moi. Donc effectivement,
y a un effet de buzz, en fait, où t'as une grosse montée, mais ça redescend beaucoup après, mais
Et en plus de ça, quand je te dis ça abîme les stats, c'est pas complètement faux, hein, parce que quand il y a aucun algorithme qui considère un contenu qualitatif s'il y a beaucoup d'abonnés versus peu de consommation. Il se dit au contraire, l'algorithme se dit il y a un problème sur ce truc, du coup je vais moins le mettre en avant. Donc c'est pas vraiment incroyable. Moi, je serais d'ailleurs pour, mais les réseaux sociaux feront jamais ça, pour qu'il y ait une désinscription, désabonnement automatique d'une personne qui n'a pas consommé le contenu d'une autre personne depuis, on peut dire par exemple, depuis 18 mois, tu vois. Et ce qui fait que tu as toujours un nombre d'abonnés cohérent au nombre de personnes qui suivent un compte. Et ce serait intéressant, vraiment.
C'est vrai que ce serait une option, ouais, pour les créateurs de savoir vraiment qui te suit à l'instant T. C'est vrai que...
Il y aurait une espèce de transparence. Il y aurait une transparence pour le créateur, pour ceux qui suivent les contenus. Il y aurait une transparence également pour les marques, qui auraient une meilleure vision, hein, parce qu'on peut avoir 2 millions d'abonnés et puis faire 10 000 écoutes par podcast, tu vois, c'est pas très intéressant. Et puis il y aurait même une implication un peu plus forte des abonnés, parce que tu tu pourrais te dire, attends, ah ouais, putain, moi, si je vais plus voir du coup son contenu, je vais être désabonné, fais chier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que aujourd'hui, il y a ça aussi. On est abonné quand même à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, sur les podcasts, un peu moins. En tout cas, moi, personnellement, je dois être abonné à une quinzaine de podcasts. Donc, c'est encore raisonnable. Je les vois encore passer, tu vois. Par contre, sur YouTube, mon onglet abonnement, j'ai trop d'abonnements. J'ai beaucoup trop d'abonnements. Donc, je vois le contenu passer au petit bonheur la chance, tu vois. Je vais prendre un exemple concret. Bruce y pensait. J'adore ce qu'il fait depuis. Vraiment, ça a été un de mes premiers abonnements sur YouTube. Et pourtant, je suis incapable de te dire quelle est sa dernière vidéo. Donc, si ça se trouve, je ne les vois plus passer. Et si ça se trouve, je suis en train de manquer des choses. Alors que, très sincèrement, si on me dit « t'aimes quoi sur YouTube ?», je vais dire « Bruce », tu vois. Mais j'ai tellement d'abonnements qu'il suffit que je rate la vidéo quand elle passe. Et puis, c'est foutu. C'est irrattrapable, quoi.
Petite astuce pour ça, alors c'est pas évident, mais essayer de faire le tri régulièrement de temps en temps. J'ai commencé à le faire moi sur YouTube, et c'est vrai que quand tu te penches un peu sur les personnes que tu suis, des fois tu te rends compte que en fait cette personne-là je la suis, mais je regarde plus du tout, ça fait un an. Donc c'est vrai que des fois prendre le temps de se dire je vais me désabonner à droite à gauche. Même si sur le coup ça fait bizarre parce qu'on se dit mais du coup presque j'appartiens plus à ce club.
Ouais, c'est vrai.
Mais en même temps, si on ne suit plus, ça, je vais pas dire ça pourrit notre feed parce que c'est pas vrai, mais ça, on n'a plus le contenu.
Oui, ça alourdit en tout cas.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Oui, et puis, ça sera un super sujet ça pour ton podcast, ce dont on est en train de parler, je trouve, sur la pause s'impose. Y a aussi le truc de. Déjà, on évolue dans la vie, c'est-à-dire que moi j'adorais le Club Dorothée quand j'étais petit, je suis pas sûr qu'à 25 ans j'aurais continué à regarder le Club Dorothée, tu vois ce que je veux dire? C'est à chaque âge ou à chaque période de notre vie, il y a tel ou tel contenu qui nous intéresse, et puis aussi il y a l'effet de lassitude, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon contenu, j'ai une lucidité, je pense que Olicard, des fois tu te fais des pauses d'un an de Olicard, quoi, tu vois. C'est parce que c'est normal, comme moi, il y a des personnes, tu vois, il y a un gars que j'adore, qui a un ami, c'est Cyrus Norse, qui parle un peu de philosophie, et j'adorais ce qu'il faisait, et puis à un moment donné, j'ai besoin de m'éloigner de son contenu pendant quelques mois, peut-être 6 à 9 mois. Et puis là, depuis, j'ai rattaqué, je réécoute toutes les vidéos qu'il fait.
Ouais, quand tu reviens avec plaisir, du coup. Ouais. C'était vraiment
oui, absolument,
toi qui as choisi de te dire, j'ai envie de regarder Cyrus, j'ai envie d'aller voir un peu ce qu'il fait. Et comme tu es curieux et que c'est toi qui fais l'action, c'est pas l'algorithme qui t'a suggéré de te taquer, t'as vraiment mis toute ton envie dedans. Donc tu dis, ok, on va y aller, et j'ai envie de l'avoir et t'es intéressé. Donc t'es même pas passif derrière l'écran, du coup.
Ouais,
t'es vraiment intéressé.
Bon, alors, on va garder ce conseil d'Adrien, à vous qui nous écoutez. On va profiter de temps en temps d'une pause, justement, pour faire un peu de tri sur les réseaux où on suit du contenu, sur YouTube, sur les podcasts, sur les choses comme ça, de faire un petit tri, non pas agressif, mais un peu honnête, de est-ce que je suis ce contenu ou pas, est-ce que c'est toujours cohérent que je sois abonné à ce compte-là. C'est intéressant. Ouais.
Voilà, on est la grande surface. On enlève le...
Très joliment dit.
Eh oui. J'aime bien les métaphores dont je t'avais dit.
Oui. Écoute, est-ce qu'on a répondu un peu en partie aux questions que tu te posais ou pas? Est-ce que
tu
as eu des
pistes? Tu m'as donné des très bonnes pistes. J'adore notamment celle du répondeur. Donc, je vais essayer de voir si je peux mettre ça en place.
Okay.
Je te tiens au courant. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu parce que c'est... C'est un véritable plaisir.
Je t'en prie, c'est un plaisir partagé. En tout cas, on se tient au courant, comme toutes les personnes que je prends en interview. Hein. Maintenant, tu as mon mail, tu as même mon numéro de téléphone, donc tu ne le diffuses pas. Merci.
Promis.
Je pense même pas me mettre ton numéro masqué. Non, mais bon, ça, c'est l'intérêt de parler le même langage. Mais on se tient au courant de la suite. Merci beaucoup,
complètement.
Adrien. Je vous invite
à
vous abonner à la Pause S'impose. Tu m'enverras par mail les liens de la Pause S'impose, je les mettrai dans la description. Si vous voulez faire comme Adrien, vous cliquez sur le lien Linktree qu'il y a dans la description et vous vous inscrivez pour les prochaines interviews. Je vous renvoie un mail, on trouve une date, c'est très intéressant. Adrien, je envoie la fin de ce podcast et puis je te reprends juste après pour te dire au revoir, ça marche?
très bien. Merci à tous, au revoir.
Merci, salut. Merci à vous d'avoir écouté l'Hippocampe. On se retrouve donc peut-être un mardi ou un vendredi à midi pour un nouvel épisode. Pour ne pas le rater, il suffit de vous abonner, quelle que soit la plateforme où vous m'écoutez. Soutenez l'Hippocampe en vous abonnant là où vous m'écoutez et laissez. Pensez-y votre plus belle notation, parce que d'une, ça me fait plaisir, et de deux, c'est bon pour l'algorithme. Rendez-vous un mardi ou vendredi à midi, à très bientôt, ciao.
L'Hippocampe, faites tremper votre cerveau à midi, le mardi et le vendredi, en direct et sur Storm, et à 13h sur toutes les plateformes.